Nous allons parler de l'information.
Les journalistes ne m'intéressent pas. You are fake
news. Il est 9h40 sur France Inter, c'est parti pour un dernier instant M de la semaine.
Vous coupez ?
Non, je vous vois.
Vous êtes en direct, allez-y.
Lehman Brothers, une faillite monumentale il y a 10 ans exactement. Des films démontrant le mécanisme de la bulle immobilière américaine et de son éclatement, il y en a eu beaucoup. Des interviews de patrons de Wall Street et de financiers aussi. À l'autre bout de la chaîne, on a beaucoup mis en scène les petits propriétaires surendettés, expulsés de leur logement. Mais le film dont on vous parle ce matin, le documentaire qui sera diffusé sur Arte, offre un nouveau visage aux méthodes et à l'aveuglement de Lehman Brothers. Il donne la parole aux employés sur le terrain, chargés de vendre à tout prix des prêts hypothécaires. Ce rouage de la machine est terrifiant, parce que ces gens ont adoré la faire tourner, la machine. Mais ils ont compris avant les autres qu'elle était en train de dérailler et pour ça, ils ont été détruits. Inside Lehman Brothers n'est pas qu'un film sur la crise financière de 2008, c'est une réflexion cruciale sur les lanceurs d'alerte.
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Bonjour Jennifer Deschamps.
Bonjour.
Merci d'être parmi nous. Voilà, projection du film hier soir, on s'est couché tard. Alors, Inside Lehman Brothers, Inside ça veut dire à l'intérieur en anglais, diffusé sur Arte mardi soir à 20h50. C'est un prime time, c'est un film franco-canadien, une coproduction franco-canadienne. On vous en parle un petit peu en avance, on a beaucoup beaucoup aimé ce film, donc on voulait pas le louper. Mais mardi matin, on le redira aux auditeurs. Hein, voilà. Et puis à vos côtés, Bruno Donnet. Bonjour Bruno.
Bonjour Sonia.
Voilà, notre chroniqueur du vendredi avec sa chronique, c'était pas sa semaine. Ouh là là, c'était pas sa semaine. On va parler des indemnités chômage tout à l'heure. Mais dans l'immédiat, le jeu du vendredi. Jennifer Deschamps, vous n'avez pas le droit de jouer. La plus célèbre des voix de la bourse à la télévision et à la radio française, si vous vous souvenez de son nom, un mail, l'instantm@radiofrance.com, c'est à vous.
La bourse a rouvert ses portes après une fermeture de 5 jours. Les curieux et les opérateurs étaient nombreux autour des groupes de cotation et c'est avec une certaine satisfaction que l'on a vu les valeurs françaises se redresser assez nettement dans une ambiance active.
Comment s'appelle cette célèbre voix de la bourse, l'instantm@radiofrance.com? Avec Lina, on continue de vous faire redécouvrir les grandes heures du théâtre à la télévision. Cette fois, ce sera Antoine Vitez mettant en scène du Sophocle. Rien que ça, hein? Allez hop. Tous les vendredis, Bruno Donnet, vous distinguez ici un sujet qui a été, on va dire, très malmené à la télé au cours de la semaine. Et ce matin, vous nous dites que ce n'était pas la semaine, mais alors pas la semaine du tout, des indemnités de licenciement.
Oui, les malheureux indemnes ont vécu une semaine difficile, car comme le rappelait Gilles Boulot lundi soir dans le 20h de TF1, d'abord, c'était leur anniversaire.
C'était il y a un an, en septembre 2017. Les ordonnances réformant le Code du travail entraient en vigueur.
Seulement voilà, ce fut un triste anniversaire, car comme le soulignait lui aussi le 20h de France 2 depuis un an.
Les indemnités aux prud'hommes sont plafonnées.
Eh oui, depuis l'année dernière, Sonia, quand vous vous faites virer de votre boîte, vous touchez nettement moins d'argent qu'avant. Ça s'appelle donc, pour les salariés, une ordonnance et une sévère. Et si je vous dis que c'était vraiment pas la semaine des indemnités de licenciement, eh bien c'est parce qu'en guise de cadeau d'anniversaire, elles ont reçu une profonde inégalité de traitement entre France 2 et TF1. Car si France 2 a bien perçu le côté douloureux pour les indemnités, d'avoir été aussi lourdement amputée, si elle a pris grand soin de faire soutenir par une musique un rien flippante, un commentaire qui n'a pas manqué de rappeler qu'elles étaient aussi de moins en moins courtisées par les prud'hommes.
En 2017, le nombre de dossiers devant la juridiction a baissé de 15%.
Bref, si France 2 a bien employé un ton grave pour nous livrer des chiffres qui ne donnaient aucunement envie de sourire.
Désormais, si l'entreprise est condamnée, un salarié avec 2 ans d'ancienneté peut recevoir au maximum l'équivalent de 3 mois et demi de salaire. Avec 30 ans d'ancienneté, 20 mois maximum, soit 2 fois moins en moyenne qu'auparavant.
Voilà, sur TF1, on a eu droit à une toute autre musique. Car autant vous le dire tout net, sur la première chaîne, les malheureuses indemnités de licenciement, eh ben, on s'est copieusement foutu de leur gueule. Pourquoi? Eh bien parce que contrairement à France 2 qui avait choisi de traiter le sujet à l'aide d'un reportage, TF1 a opté pour le désormais incontournable traitement en plateau. Et là, si les indemnes ont passé un sale quart d'heure, c'est à cause du ton de la voix de celle qui a été dépêchée pour nous résumer la situation. Écoutez bien, parce que ça vaut son pesant de coton-tige, la question de Gilles Boulot.
Pourquoi les salariés renoncent-ils aujourd'hui à aller devant les prud'hommes?
Voilà, et maintenant la réponse de la madame totalement hilar.
Parce qu'ils ont compris, ces salariés, que bien souvent, ça ne valait plus du tout le coup.
Eh ouais, youpi, super, les indemnes sont toutes pourries. Et au fait, c'est combien, madame la réjouit, le montant du plafond?
Exemple, pour quelqu'un qui travaillait dans son entreprise depuis 2 ans, c'est son ancienneté. Il ne peut plus toucher au prud'hommes plus que 3 mois et demi de salaire en indemnité.
Et voilà, c'est bien fait pour ses pieds. Et s'il a bossé 30 ans, le salarié, alors qu'est-ce qui se passe?
Il peut toucher au maximum 20 mois de salaire.
C'est absolument fantastique! Alors, depuis qu'elles ont entendu ça, Sonia, les indemnités de licenciement ne décollèrent plus. Elles ont expliqué que ce n'est pas parce que les JT veulent faire des économies en diffusant toujours moins de reportages qu'ils peuvent se permettre de nous infliger n'importe quel gugus en plateau. Elles ont fait valoir que lorsqu'il n'y a plus d'images, plus d'interviews et que le seul contenu que l'on nous offre, c'est finalement le ton employé par celui qui nous livre l'information. La moindre des choses, c'est que le ton soit juste. Et voilà pourquoi elles ont demandé à ce que notre ravie de la semaine soit licenciée jusqu'à ce qu'elles comprennent enfin ce qu'elles racontent, et tout ça, bien évidemment, sans indemnité.
C'est ce qu'on appelle le cas des ruptures conventionnelles. Elles ont augmenté de 8% l'année dernière.
Youpi.
Youpi. Merci beaucoup, Bruno. C'était pas la semaine, donc, des indemnités de chômage. Votre chronique du vendredi est à réécouter sur franceinter.fr ou à podcaster. Alors, la Madeleine du vendredi a évidemment trouvé un gagnant. Vous êtes très très nombreux à avoir reconnu Jean-Pierre Gaillard, l'incontournable voix de la bourse, voilà. Et je félicite Vincent, qui est le premier à nous avoir répondu. C'était la première, hein, la première intervention télé de Jean-Pierre Gaillard. On était en 1968. Et ben voilà, Inside Lehman Brothers, on y va. La crise de 2008, les États-Unis, c'est parti.
L'instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Do you own a house? Are you looking for lower mortgage payments? Let's call Cal and refinance our house. I bought my first home through Cal with no money down, and my mortgage payment is cheaper than rent.
Call Cal today and get a low Cal mortgage. You owe it to yourself.
C'est vraiment génial. En 2008, on vous vend du prêt immobilier à la télévision, exactement comme si on vous vendait des barbecues ou du Minitel Rose. D'ailleurs, cette publicité pour un prêt hypothécaire, eh ben, c'est des gonzesses avec de la lingerie en couleur. Mais vraiment, hein, on se croirait pour un service d'escort girl qui vous enjoigne d'appeler un numéro gratuit le plus rapidement possible. Inside Lehman Brothers, du nom de cette banque agressive et rutilante, leader du secteur au plus fort taux de rendement à l'époque, c'est-à-dire le prêt hypothécaire. Jennifer Deschamps, vous signez ce film qui va être diffusé sur Arte mardi soir. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que vous replongez dans l'ambiance de l'époque, de Lehman Brothers, l'effervescence, l'émulation. Il y a un mot qui revient à plusieurs reprises, c'est le mot « drogue ».
Oui, alors parce qu'il parle notamment, il y a une personne qui en parle particulièrement, qui est Matthew Lee, qui est un des anciens vice-présidents de Lehman, qui témoigne, qui lui parle de, la première chose, c'était l'ambiance qui régnait chez Lehman, c'était une effervescence permanente en fait, et pour eux, ils étaient tous addicts, j'ai envie de dire, à cette ambiance de travail où on ne s'arrête jamais, on ne se pose pas de questions, et on continue à foncer droit devant. Ça, c'était la première chose. Ils étaient accros à un certain nombre de subterfuges qui permettaient de masquer les comptes, de gagner un peu plus d'argent, d'aller dans des zones qui s'appellent grises en fait, ou qui sont des zones de vide juridique. Et puis à l'autre bout de la chaîne, il y a aussi une des femmes qui travaillait pour les courtiers en prêt hypothécaire qui parle d'addiction en fait au milieu, parce que le milieu des prêts et l'industrie du prêt permettait et permet toujours aujourd'hui de gagner beaucoup d'argent en fonction du chiffre d'affaires que vous faites, puisque vous êtes rémunéré en salaire mais également en bonus. Ouais. Et donc plus vous faisiez rentrer de bonus, plus vous gagniez d'argent. Et pour cette témoin notamment, Cheryl, qui n'avait pas fait d'études, jamais elle aurait pu imaginer avoir une telle position.
Elle avait démarré standardiste.
Exactement.
Voilà, c'est un quatuor de femmes brisées qui occupent tout le centre de ce film. Elles sont magnifiques, chacune à leur niveau, donc des cadres ou des anciennes standardistes, on vient de le dire, qui ont grimpé les échelons. Elles sont tous ces intermédiaires qui d'un seul coup prennent des visages et des corps, qui s'incarnent. Ce sont ces intermédiaires qu'on a très très peu vus depuis 10 ans dans toutes les enquêtes qui ont été faites sur la faillite de Lehman Brothers. Elles avaient les dossiers de prêt, ceux des particuliers en main, et chacune de son côté et à son niveau va commencer petit à petit à mettre le doigt sur des anomalies.
Dans celui-là, j'ai regardé l'identité de l'emprunteur. Puis le nom de son employeur. Et enfin, le numéro fiscal de l'entreprise. Il était identique au premier dossier. Je me suis dit, j'ai déjà vu ça quelque part. Alors je prends le troisième dossier en me demandant ce qui ne va pas coller. Puis je prends les quatrième et cinquième dossiers qui viennent tous du même courtier. Oh mon Dieu, ils sont tous falsifiés.
Voilà, c'est extrêmement intéressant parce que on a parlé évidemment de ce que vous venez de nous raconter, c'est-à-dire des manipulations à très haut niveau vis-à-vis de Wall Street. On a beaucoup moins parlé de ces prêts au quotidien falsifiés où un emprunteur est supposé gagner 7 000 $ alors que en réalité l'emprunteur il travaille au Kentucky Fried Chicken du coin, c'est-à-dire l'équivalent d'un McDo en peut-être encore moins bien rémunéré aux États-Unis. C'est ces femmes qui vous racontent ce mécanisme-là au quotidien.
Ouais. Pour moi, c'était vraiment important en pensant en fait à ce film de faire d'un film financier et d'enquête un film humain. Et donc à partir de ce moment-là, de pouvoir reconstituer toute la chaîne, c'est-à-dire de chez ces courtiers en Californie au top de Wall Street pour raconter pour mêler les petites histoires à la grande histoire. Voilà. Et donc c'est en fiction, il y a un film qui existe qui est absolument incroyable, c'est The Big Short.
Oui.
Voilà.
Oui.
Donc ça n'est pas au niveau de The Big Short, mais voilà, il y avait cette idée de pouvoir retracer toute cette chaîne.
Alors, il y a celles qui commencent à voir des dossiers qui posent des problèmes, qui comprennent très bien que les dossiers sont falsifiés. Il y a celles qui arrivent au bureau un matin et les dossiers se sont envolés. C'est-à-dire que ni la secrétaire ni l'assistante du patron ne savent où sont des dossiers de prêt, c'est-à-dire réellement des tas et des tas et des tas de papiers, l'équivalent de 30 millions de dollars, raconte une ancienne salariée disparue.
Alors, elle, ce qui se passe, c'est qu'en fait, toutes les femmes qui témoignent dans le film, en fait, ont dénoncé les fraudes à leurs supérieurs. Et à partir de ce moment-là, s'est mis en place un mécanisme, en fait, de harcèlement pour les conduire à la démission et surtout pour les conduire à ne pas aller plus loin, en fait, dans leur démarche de dénonciation, en fait, des fraudes. Elles ne se parlaient pas entre elles. Donc, elles n'étaient absolument pas au courant les unes les autres qu'elles vivaient chacune la même situation. On a découvert qu'à la fin. Et donc, dans le cas de cette femme, Sylvia, elle, son job au quotidien, parce qu'elles avaient toute une place différente dans la société de courtage, c'était justement de mettre en relation les gros clients avec la société d'emprunt et puis les banques derrière, enfin au final, Lehman du coup. Et elle, en fait, pour réussir à la faire taire, on a commencé par vouloir la décrédibiliser. Donc c'est ce qu'elle raconte, en fait, on se demande mais pourquoi est-ce qu'ils vous ont volé ces dossiers. En fait, elle le raconte très bien, elle dit finalement elle était décrédibilisée au niveau professionnel dans l'ensemble de la profession, donc elle ne pouvait plus retrouver de travail derrière.
Voilà.
Ensuite, c'est une façon de la briser et de la faire taire.
L'engrenage devient petit à petit cauchemardesque, c'est ce processus d'intimidation qui va s'abattre sur chacune de ces femmes. On écoute Sylvia justement.
J'attendais devant l'ascenseur et je me disais, si je monte dedans avec cet homme, je suis morte. Et si je descends à pied, personne ne m'entendra. Il peut me tuer dans la cage d'escalier. Il se tenait si près de moi que je sentais sa respiration dans mon cou. J'ai pris les escaliers et j'ai fait le tour du bâtiment. Quand je suis revenue, il était parti. Je suis rentrée chez moi, les plantes avaient été déplacées sous mon porche, les écrans de télévision étaient retournés, le garage était en désordre, le message était « Hey, on est rentré chez toi ».
Toutes, elles racontent la façon dont elles ont été brisées. Toutes, elles racontent ces nouveaux patrons qui entrent dans les bureaux comme des hommes de la mafia. Toutes, elles racontent ces individus embauchés justement pour faire pression, les allusions sexuelles. Toutes, il y a un mot qui revient, hein, c'est son souffle sur ma nuque. Donc c'est vraiment une pression physique qu'elles ont subie.
Oui, qui s'est mise en place. Alors, nous, on a interviewé trois de ces femmes, elles sont six en tout à avoir porté plainte. Et donc j'ai eu... J'étais en contact avec les six. J'avais décidé d'en tourner quatre. Il y en a même une qui a totalement renoncé, en fait. C'était pas possible. Sylvia, qu'on vient d'entendre, pendant un an, elle a renoncé, parfois la veille du tournage, au moment où j'allais prendre l'avion. Donc, on est quand même à chaque fois allée la rencontrer.
Hein, voilà. Plusieurs fois.
Et donc, c'est que sur le dernier tournage, parce que je suis allée tourner quatre fois, c'est que sur le dernier tournage que finalement, on a pu vraiment tourner tout ce qu'on a tourné avec elle.
D'ailleurs, il y a quelque chose de très beau dans votre film, Jennifer Deschamps, c'est que l'image est extrêmement soignée, la mise en scène est extrêmement soignée. Vous avez une façon bien particulière de filmer ces femmes. Des gros plans, des très beaux éclairages, des séquences où elles se maquillent, comme si vous vouliez leur redonner beauté et dignité.
C'est gentil, c'est le plus beau des compliments, parce que c'était l'idée. Alors, j'ai travaillé avec un chef opérateur de talent, Pierre Taillez, avec qui on
de
a
grand
beaucoup
talent, ouais, parce que l'image est très belle.
Voilà, que je connais depuis de nombreuses années, qui est encore tout jeune, voilà, mais qui a déjà énormément de talent, et on se connaît depuis qu'il a débuté. Et on en avait toujours parlé. Moi, quand vous parliez d'éclairage, justement, il n'y a pas d'éclairage, en fait, dans le film. Pour moi, c'est très important d'être toujours en lumière naturelle. Donc c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé, parce que j'aime beaucoup filmer en contre-jour et avec des éclairages naturels, de jamais rajouter de lumière. Donc il faut réussir à réfléchir autour et à voir comment on peut filmer les gens.
Alors vous avez
parlé de la mise en scène, je me permets quand même. C'était aussi le talent de ma monteuse, Myriam Milan, voilà, qui a également énormément de sensibilité, ça se sent.
Vous avez pisté également à l'autre bout de la chaîne les anciens VP, Vice President, c'est un titre honorifique dans une entreprise américaine senior en charge des finances. Mathieu Lee, vous venez de parler de lui tout à l'heure au début de l'interview. Lui, il est parti faire le tour du monde à moto, plus jamais il ne remettra les pieds à Wall Street. Là aussi, ça donne des plans magnifiques, filmés du ciel, où justement, il y a cette espèce de contraste entre ces femmes enfermées dans leur douleur et dans leurs souvenirs. Et puis lui, qui part à la conquête du monde pour se sortir de l'enfer de ses souvenirs.
Ouais, exactement. Et c'est quelque chose qui nous a frappé pour tous ces personnages. C'est en les rencontrant, on s'est rendu compte à quel point ces gens qui avaient été dans une industrie où ils étaient dans l'industrie l'immobilier, mais du bâtiment finalement, ou enfermés à Wall Street en fait. Et on connaît tous, beaucoup New York en fait, Manhattan, ces buildings. Et en fait, tous en fait trouvent une sorte de rédemption. En allant vers la nature. Et c'était quelque chose qui pour moi était très important.
Et qui est très présent dans le film, dans un film sur l'effondrement d'un organisme financier. Vous allez également donner la parole à l'expert qui a été chargé de créer une commission pour réouvrir toutes les archives de Lehman Brothers, qui met le doigt sur des mécanismes absolument invraisemblables. Le repo 105, c'est-à-dire une façon de maquiller les bilans comptables en 2007, à l'époque où Lehman Brothers annonce des chiffres mirobolants, on est quelques mois avant l'effondrement, et où en fait, on cache les emprunts toxiques, on cache les actifs toxiques, on les fait passer à Londres et ensuite ils reviennent dans les bilans comptables. Tout ça, vous le mettez à jour. Jennifer Deschamps, quand je disais, en réalité, ce qui reste de ce film, c'est que chaque personne à son niveau a donné l'alerte.
Exactement.
Cette alerte n'a servi à rien.
À rien.
Absolument à rien, si ce n'est à détruire ces gens-là. Donc la première chose que vous pointez du doigt, c'est ce qu'on appelle la SEC. Expliquez-nous.
Alors la SEC, c'est la Security and Exchange Commission, donc c'est le gendarme boursier américain. Et ce que Anton Valoukas a découvert en enquêtant, donc Anton Valoukas, c'est donc un des plus gros avocats américains, c'est l'ancien procureur de l'Illinois, donc qui est un des plus gros cabinets d'avocats aujourd'hui et qui a été nommé rapporteur de la faillite. Il a enquêté pendant un an et demi avec 40 personnes. Il a eu accès en fait à tous les ordinateurs, tous les documents de Lehman, et donc ils ont découvert que la SEC, donc le gendarme boursier américain, était présent au quotidien la dernière année et demie en fait de Lehman, mais qu'à aucun moment les personnes qui étaient dans les bureaux n'étaient en capacité d'analyser les documents, puisqu'ils avaient tout sous les yeux.
Ils étaient totalement dépassés, ils ne comprenaient rien à ce qui se passait.
Ils ne comprenaient rien, alors déjà parce que en fait dans le monde de la finance, les gens ont toujours un tour d'avance, en fait. Ils sont déjà toujours en avance sur le législateur. Enfin, c'est le cas dans de nombreux secteurs. Hein, voilà.
Ça aussi, c'est un des fils rouges du film. C'est-à-dire ce que permet la loi et comment une firme s'infiltre dans les failles de la loi. Ouais. Et ce gendarme boursier qui est totalement impuissant, totalement dépassé par la situation. Et puis, il y a ce deuxième niveau, c'est-à-dire que chaque personnage du film a donné l'alerte et sa carrière en est détruite. C'est vraiment un film sur les lanceurs d'alerte.
C'est un film sur les lanceurs d'alerte, mais qui est assez désespérant, en fait, au final. Non, c'est vrai. Enfin, on connaît tous cette situation. Je sais que vous êtes assez pointu sur le sujet des lanceurs d'alerte.
Mais justement, c'est une fonction qui a été très médiatisée, très valorisée.
Mais pas aux États-Unis. Aux États-Unis, être lanceur d'alerte, c'est quelque chose d'extrêmement négatif. C'est-à-dire que être whistleblower, c'est quelque chose. Vous n'avez pas envie d'être whistleblower parce que du coup, vous êtes vécu comme un élément négatif. Donc c'est ce qui s'est passé en fait pour l'ensemble de ces acteurs, et Mathieu Lee notamment, qui avait témoigné une seule fois dans 60 Minutes, qui avait jamais voulu avant, jamais voulu après.
60 Minutes, c'est une grande émission de télévision américaine.
Exactement. Donc on a mis un an et demi à le convaincre, et il a notamment accepté parce que on était français et européen et qu'on a un autre point de vue sur les lanceurs d'alerte.
Merci beaucoup, Jennifer Deschamps. Le film est donc diffusé en prime time sur Arte mardi soir. Merci aussi à toute l'équipe qui travaille si bien et qui rigole le temps. L'équipe de l'Instant M, c'est François Audouin à la réalisation, Anne-Cécile Perrin, Redouane Tella qui prépare les émissions, et à la technique ce matin, c'est Mathias Saléon. Juste après les infos, vous retrouvez Ali Rebéi. Grand bien vous fasse, un spécial altruisme efficace.